Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 25 mars, chez Ruben Orsil à Washington, en compagnie de Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir à tous. Bonsoir Chérubin.
Au sommaire ce soir, nouvelle violence à Bangui. Les anti-Balaka considérés désormais comme ennemis de la force africaine.
Depuis le week-end, les anti-Balaka dans leur camp, ils étaient attaqués par les contingents burundais et avec les ex-Sirika masqués à la tenue de Miska burundais.
On aura la réaction de Patrice Edouard Ngaïsona, coordonnateur politique des anti-Balaka. Insécurité dans l'est de la RDC, de nombreux habitants du Rutshuru fuient face à l'avance des FDLR.
Après le retrait des FRDC, les rebelles rwandais avaient investi les localités et ils s'illustrent par des exactions contre les civils.
Près de 3000 immigrés africains sans papier ont accepté de quitter Israël contre le paiement d'une somme d'argent. Le président américain appelle à l'unité de la communauté mondiale contre l'annexion de la Crimée. Et ne manquez pas les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, nouvelle journée de violence aujourd'hui à Bangui. Des tirs à l'arme lourde et légère ont encore secoué plusieurs arrondissements. Certaines sources parlent d'affrontements entre la mission internationale de soutien à la Centrafrique et les miliciens anti-Balaka. Le chef de la MISCA, Jean-Marie Michel Mokoko, a assuré aujourd'hui que les anti-Balaka sont désormais considérés comme les ennemis de la force africaine. Le point sur la situation avec Timothée Donangmaï.
Des témoins parlent de violents accrochages entre des soldats africains et des miliciens anti-Balaka non loin de l'aéroport de Bangui. Des victimes ont été signalées parmi les civils. Face à la montée de ton entre la force africaine et les miliciens, la MISCA se dit désormais engagée à en découdre avec les anti-Balaka, qu'elle qualifie d'ailleurs d'ennemis. Jean-Marie Michel Mokoko, chef de la MISCA.
Depuis quelques jours, nous considérons au niveau de la MISCA que les anti-Balaka ont franchi un pas qui fait que nous considérons désormais les anti-Balaka comme étant les ennemis de la MISCA. Parce qu'ils se permettent de tirer sur des gens qui sont venus ici pour essayer de mettre un terme à cette crise et au bénéfice de tous les centrafricains dont ils font partie.
Plusieurs axes de Bangui ont été barricadés toute la journée par des jeunes des quartiers appuyés par des miliciens anti-Balaka en signe de protestation contre la force africaine. Cette nouvelle spirale de la violence intervient alors qu'environ 3000 éléments des forces armées centrafricaines, les FACA, sont en quartier consigné depuis hier soir au camp Kassai dans le 7e arrondissement.
Un peu plus tard dans cette émission, nous écouterons le coordonnateur politique des anti-Balaka. L'insécurité est persistante dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 6 localités dans le territoire de Rutshuru ont été vidées de leur population qui fuit les rebelles rwandais des FDLR. Le point avec Omar Kavota, un leader de la société civile à Goma.
C'est notamment Rugarama, Shinda, Mutabo, Rutezo, Karambi et Kitagoma dans les groupements de Busanza, territoire de Rutshuru. Les populations vivent dans leur localité à la suite de l'occupation par celle-ci par les rebelles rwandais des FDLR. Après le retrait des FRDC, les rebelles rwandais avaient investi les localités et ils s'illustrent par des exactions contre les civils. C'est depuis 2 mois que les FRDC s'étaient retirés de ces localités, c'est-à-dire après la débâcle du M23, les FRDC ont été engagés dans d'autres opérations, notamment les opérations contre les rebelles ougandais de l'ADF Nalu à Beni, à Massissi contre l'APCLS et à Walikale contre d'autres groupes armés, mais aussi à Lubero contre les autres FDLR. Mais de ce côté ici, le groupement était déjà dégarni par les FRDC. Il n'y a donc ni FRDC, ni policiers, ce qui fait que les FDLR ont profité du vide.
Omar Kavota, leader de la société civile à Goma.
La Guinée fait face à une épidémie de fièvre hémorragique Ebola. La maladie est très contagieuse et pour le moment, il n'y a aucun remède. Des cas suspects ont été signalés également au Libéria. Le point avec Mamadi Koulibaly, directeur du Centre national des maladies infectieuses à Conakry.
Environ 80 cas suspects depuis février, pour environ une cinquantaine de décès. On avait cru à des cas à Conakry, mais aux dernières informations, c'était seulement des entérobactéries. Les analyses, ce que nous apprenons, ont été faites à Dakar et en France. Il faut aussi savoir que les mesures prises par le gouvernement ici sont enseignées et ça passe régulièrement à la radio et même au niveau des radios communautaires pour sensibiliser la population afin que la chaîne soit coupée. L'autorité sanitaire au niveau de la région de Zérékouré est en train de diffuser sur des radios communautaires à la population ces mesures et les médicaments mis à la disposition de ces autorités à destination de la population. Là, c'est le terrain qui commande. On sait, par exemple, que s'il est prohibé l'administration d'antibiotiques, la vitamine du groupe C se comporte bien vis-à-vis d'une infection à virus Ebola.
Mamadi Koulibaly est le directeur du Centre national des maladies infectieuses à Conakry, en Guinée.
Les pourparlers de paix entre les factions belligérantes au Soudan du Sud ont repris aujourd'hui à Addis Abeba, sous la bannière de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, l'organisation régionale de l'Afrique de l'Est, Jean-Roger Bion.
Les facilitateurs de l'IGAD ont à cœur de remettre sur les rails le dialogue politique devant mener à la réconciliation nationale et à l'apaisement au Soudan du Sud. Les pourparlers de paix avaient été suspendus le 3 mars, sans réelle avancée. Le gouvernement sud-soudanais et le camp de l'ancien vice-président Riek Machar, dont les troupes s'affrontent depuis mi-décembre, n'ont eu cesse de violer le cessez-le-feu conclu le 23 janvier dernier. L'IGAD a indiqué ce mardi dans un communiqué rester profondément inquiète de la poursuite des combats au Soudan du Sud et de la violation flagrante par les deux parties de l'accord de cessation des hostilités. Les combats qui ont éclaté le 15 décembre au sein de l'armée sud-soudanaise entre troupes loyales au président Salva Kiir et combattants fidèles à M. Machar avant de se propager dans le jeune pays ont déjà fait plusieurs milliers de morts et près d'un million de déplacés.
Ouverture d'un procès aujourd'hui en Égypte contre le dirigeant des frères musulmans, Mohamed Badi, et près de 700 membres de la confrérie. Ils font face à des accusations multiples, y compris incitation à la violence et au meurtre. La séance a été ajournée au 28 avril, quand le verdict et la sentence seront annoncés. Les avocats de la défense ont boycotté le procès ce mardi pour protester contre la condamnation à mort hier par le même tribunal de 529 membres des Frères musulmans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Barack Obama veut maintenir la pression sur Moscou suite à l'annexion de la Crimée, que le président américain et ses alliés qualifient d'illégale. Lionel Gaïma.
Dans une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hollandais à l'issue d'un sommet sur la sécurité nucléaire à La Haye, M. Obama a plaidé à plusieurs reprises en faveur de l'unité de la communauté mondiale sur le dossier ukrainien. Rappelant la décision d'imposer des sanctions à la Russie, le président Obama a mis en garde contre de nouvelles ingérences de Moscou en Ukraine.
There's no expectation that they will be dislodged by force.
Le chef de l'exécutif américain continue d'affirmer qu'il n'existe pas d'option militaire pour libérer la Crimée, mais il espère que les pressions diplomatiques, politiques et économiques indiqueront aux Russes qu'ils ont un prix à payer pour leur violation de l'intégrité de l'Ukraine. En réponse à l'annexion de la Crimée, les pays du G7, les sept pays les plus industrialisés du monde, ont adopté une position commune en refusant de participer au prochain sommet de Sochi avec la Russie. Ils ont également exclu la Russie du G8. Entre-temps, sur le terrain, les forces russes consolident leur contrôle en Crimée.
Le sommet sur l'énergie nucléaire s'est achevé aujourd'hui à La Haye. 35 pays ont pris l'engagement de transformer les directives internationales sur la sécurité nucléaire en législation au niveau national. L'initiative proposée par la Hollande, les États-Unis, la Corée du Sud requiert aussi une révision indépendante des procédures de chaque pays en matière de sécurité nucléaire.
À Pékin, des proches en colère des passagers du vol 370 de Malaysia Airlines, portés disparus depuis le 8 mars, ont manifesté devant l'ambassade malaisienne. Entre-temps, suspension des opérations de recherche de l'appareil dans l'océan Indien. Michel Joseph.
Madame Hu, une des 100 proches et membres des familles chinoises concernées. Ils brandissent des pancartes demandant de savoir la vérité au sujet de l'avion dont les deux tiers des passagers étaient des citoyens chinois. Ils refusent de croire, à défaut de preuves, la conclusion des officiels malaisiens selon lesquels l'appareil s'était abîmé dans le sud de l'océan Indien, à des milliers de kilomètres de son trajet prévu. Pour certains manifestants, ces officiels ne sont que des menteurs et meurtriers. Quand ils ont essayé d'approcher les journalistes présents, la police a tenté de leur barrer la route et il s'en est suivi des accrochages. On fait remarquer qu'il sera très difficile de déterminer où pourrait bien se trouver l'appareil dans ce vaste océan Indien, pour citer un responsable militaire australien. Nous ne sommes pas à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Nous essayons toujours de savoir où se trouve la botte de foin. En raison de la météo défavorable et des mauvaises conditions de mer, les autorités australiennes ont suspendu ce mardi, pendant 24 heures, les recherches.
L'Arabie saoudite a appelé à la fourniture d'une aide militaire additionnelle aux rebelles syriens cherchant à renverser le président Bachar al-Assad. Lors d'une réunion de la Ligue arabe au Koweït, les dirigeants de l'organisation devraient aussi s'engager à soutenir davantage les pays voisins de la Syrie qui ont accueilli des millions de réfugiés depuis le début de la crise en mars 2011.
Et deux policiers afghans sont morts aujourd'hui dans un attentat des talibans contre un bureau électoral à Kaboul. Cinq militants ont également trouvé la mort, selon un porte-parole du gouvernement afghan. L'attaque s'est déroulée à proximité de la résidence d'Ashraf Ghani, l'un des principaux candidats à la présidentielle du 5 avril en Afghanistan.
Voilà pour le journal. Il est 18h41 en temps universel, 14h41 à Washington, chez Ruben Orsil en compagnie de Nathalie Barge. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Au moins 15 morts depuis ce week-end à Bangui, Nathalie, dans une énième flambée de violence, principalement aux abords du PK5.
Et oui, ce matin, des échanges de tirs ont encore été entendus dans la zone où de nombreux musulmans sont menacés par des milices anti-Balaka et des pillards. Le week-end dernier, les forces Sangaris et de la MISCA sont intervenues dans des affrontements ayant fait au moins 9 morts, ce qui a été confirmé par Patrice Edouard Nguessona, coordonnateur politique des anti-Balaka. Joint par la Voix de l'Amérique, il dit que son groupe a été attaqué par le contingent burundais avec des ex-Séléka.
Depuis le week-end, les anti-Balaka dans leur camp, ils étaient attaqués par le contingent burundais et avec les ex-Séléka masqués à la tenue de MISCA burundais. Derrière l'aéroport, les anti-Balaka étaient obligés de se défendre et repousser l'attaque du contingent burundais. Et ce dimanche, le contingent burundais a ouvert le feu sur la position des anti-Balaka, enfin sur la population civile du 4e arrondissement. Et cela a poussé la réplique également des anti-Balaka. Il y a eu des morts parmi la population civile que militaire.
Ceci dit, cela est votre version. Cependant, depuis plusieurs jours, les anti-Balaka attaquent des musulmans.
C'est vrai, j'avais souligné ça lors d'un entretien avec des représentants. J'ai dit, mais pourquoi quand ces ex-Séléka font des gaffes, vous n'en parlez pas? Est-ce qu'on vous a fait part des 72 corps à l'hôtel Beau Séjour? On vous a fait part de 4 élèves qui ont été égorgés par les ex-Séléka. Qu'est-ce qu'on vous a dit, ce qu'ils ont fait vers Boda, adjacent 12 centrafricains?
Justement, Joachim Kokate, hein, que vous connaissez très bien, qui s'est désolidarisé du mouvement anti-Balaka, qui est aujourd'hui conseiller de la primature, il a essayé de ramener le calme là-bas. L'on parlait de 11 000 musulmans qui sont en danger. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces populations sont encore menacées par les anti-Balaka?
Je ne voulais pas parler de ce monsieur. C'est sa nature de tomber par-ci, par-là. Moi, je ne voulais pas en parler. Est-ce qu'on vous a dit que quand il est allé là-bas, la mission a été un succès ou un échec? Et nous, on a appelé les enfants là-bas de ne pas s'apprendre aux musulmans qui n'ont pas des armes. Notre combat, c'est pour chasser les mercenaires soudanais et tchadiens.
Pourquoi ne vous pliez-vous pas au processus de désarmement en cours?
Quand ils voulaient faire le désarmement, pourquoi ils sont venus tirer sur moi à la maison alors qu'ils n'ont pas trouvé une seule munition? Aujourd'hui, on devait arrêter un autre gars. Il y a Nourdine qui se bat. On le laisse revenir avec des Boko Haram. On veut seulement jeter tache d'huile sur les anti-Balaka et peut-être blanchir les Séléka. La paix, c'est de mettre des protagonistes autour de.
C'était Patrice Edouard Nguessona, un représentant des anti-Balaka en Centrafrique.
La Voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Alors que l'armée nigériane s'en prend à la secte islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, le gouvernement du président Goodluck Jonathan affirme que les militants trouvent refuge dans les pays voisins, d'où ils mènent des attaques transfrontalières au Nigeria. Les voisins du Nigeria sont confrontés à une question difficile. Comment combattre cette tendance sans devenir eux-mêmes des cibles d'attaque? Deux correspondants de La Voix de l'Amérique, Anne Luke et Moki Edwin Kenzeka, se sont penchés sur la question. Timothée Donangmaï nous présente leur reportage.
Au Niger, la capitale régionale de Difa est juste de l'autre côté de la frontière de l'État de Borno, l'épicentre de l'insurrection au Nigeria. Le préfet de la région de Difa, Inoussa Sauna, dit que sa ville est sur la ligne de front.
Ça reste permanent, hein? On est juste vigilant. Et que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu faire des opérations sur le territoire nigérien.
En février, l'armée du Niger a déclaré que les autorités ont arrêté 20 militants nigérians de Boko Haram qui auraient planifié des attentats contre Difa. Depuis que le Nigeria a monté une offensive contre Boko Haram en mai dernier, près de 60 000 personnes ont fui le nord-est pour les pays voisins. La plupart sont allées au Niger. Au Cameroun, il est à craindre que Boko Haram n'ait établi des camps dans les zones frontalières montagneuses. Le groupe pourrait être en train de recruter des adeptes. Amaoundé Mohamed est l'imam d'une mosquée à Kolofata, une ville camerounaise près de la frontière du Nigeria.
Oui, Boko Haram vient recruter ici, c'est vrai. L'État ne dit pas la vérité, l'État ne dit rien.
Sanoussi Ibrahim, un prédicateur de Boko Haram de l'État de Borno, a été détenu pendant 3 mois par les autorités camerounaises. Un journaliste de La Voix de l'Amérique l'a interviewé ce mois-ci dans l'extrême nord du Cameroun. Je suis ici pour prêcher le message d'Allah. Je ne fais que transmettre le message de l'islam. Le Nigeria a fermé une partie de sa frontière avec le Cameroun, arguant que les militants ont utilisé ce pays comme base pour se faufiler au Nigeria et mener des attaques. Le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari, rejette les allégations selon lesquelles son pays serait complaisant ou indulgent face à une menace terroriste régionale.
Let me say here that such allegations are irresponsible and ungrounded.
Permettez-moi de dire ici que ces allégations sont irresponsables et sans fondement. La secte a effectué 2 enlèvements de citoyens occidentaux au Cameroun, mais les militants nigérians ont plutôt ménagé ce pays. Cela pourrait changer si le Cameroun adopte une position plus agressive.
Vous écoutez La Voix de l'Amérique en direct de Washington et maintenant des témoignages de la rubrique 100 citoyens journalistes en RDC.
Fiston Mambalarous, journaliste et citoyen de La Voix de l'Amérique à Béni.
Après l'assassinat de Madame Kasuki Dassis le dimanche dernier et la découverte d'un corps d'un jeune homme assassiné par des inconnus sur l'axe routier Mbaou-Kamango, la société civile urbaine coordination de Béni exige que des enquêtes déclenchées produisent cette fois-ci des résultats. Pour Gilbert Kambalé, président de cette structure, il est temps que ce qui en sécurise la ville de Béni et ses environs soit démasqué. À lui toujours de préciser que la population civile a un rôle majeur à jouer car il estime qu'après la défaite des rebelles ADF sur la ligne de front, certains d'entre eux se sont infiltrés parmi la population civile et constituent une menace à la sécurité de la ville et du territoire des Béni. Quant à ce qui concerne les militaires congolais qui sont pointés du doigt,
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Près de 3000 immigrés africains sans papiers ont accepté de quitter Israël contre le paiement d'une somme d'argent. Le gouvernement israélien avait auparavant indiqué qu'un accord avait été conclu avec un pays tiers prêt à les accueillir sans révéler le nom de ce pays. Pour les autorités, il s'agit d'un acte volontaire de la part des immigrés, mais les activistes qui militent pour la cause des demandeurs d'asile parlent, eux, de pression. Pour de plus en plus de détails, Jacques Aristide a joint Scott Bob, chef du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem.
Israël, depuis quelques années, essaie de réduire le nombre d'immigrants africains, que pour l'Israël, le gouvernement, sont des immigrants économiques qui cherchent seulement du travail. Pourtant, bien que les immigrants disent qu'ils fuient des régimes autoritaires et peut-être même la mort, alors ils ont pu déporter plusieurs centaines, peut-être quelques mille réfugiés, par exemple, de Côte d'Ivoire et du Sud-Soudan, disant que bon, les guerres chez eux étaient finies, donc ils pouvaient rentrer chez eux. Mais pour le cas de Érythrée et du Soudan même, comme il y a encore des conflits et beaucoup de problèmes de droits de l'homme, c'est très difficile, selon les statuts internationaux, pour déporter ces gens. Donc, le gouvernement essaie de trouver une solution, et cette solution, pour le moment, apparaît être de les encourager, pressionner même, de quitter le pays volontairement.
Scott, nous savons que des milliers d'immigrés africains ont manifesté ces derniers mois contre le refus des autorités israéliennes de leur accorder le statut de réfugié. Donc, ce transfert d'immigrés africains vers ce pays tiers, n'est-il pas une déportation un tant soit peu déguisée ?
En principe, non, parce que c'est volontaire. Ils acceptent une somme de 3 500 $ et un billet d'avion gratuit et ils volontairement prennent le chemin pour ce pays. Mais comme tu as souligné, ils sont très pressionnés. Ils sont en plus maintenant dans cette facilité, c'est une prison ersatz où ils subissent, ils sont isolés, ils peuvent sortir pour quelques heures, mais ils doivent toujours rentrer le soir. Et donc, c'est une pression pour qu'ils quittent volontairement le pays. Beaucoup n'ont pas accepté cette offre et disent que non, c'est la mort certaine qui leur attend chez eux. Donc, ils préfèrent de rester dans une sorte d'incertitude en attendant que peut-être la demande d'asile peut-être serait accordée.
Voilà donc un sujet très polémique, en quelque sorte, en Israël.
Polémique et difficile, parce qu'il y a quand même des Israéliens qui supportent beaucoup les migrants, disant que c'est pas juste. Il faut pas oublier que les Juifs, les Israéliens eux-mêmes, ont été des réfugiés pendant des millénaires et ont souffert beaucoup partout dans le monde. Donc pourquoi ils commencent à traiter des gens comme si eux, c'était comme ils ont été traités. Donc. Et alors, ils ont beaucoup de soutien parmi certains groupes et qui les appuient. Et c'est pour ça que ce cas, cette détention dans cette facilité, sera présentée devant la Cour suprême à partir du 1er avril.
Merci. Scott Bob, chef du bureau de la Voix de l'Amérique à Jérusalem.
La pollution de l'air est maintenant la plus grande menace pour notre santé en matière de qualité de l'environnement, alerte l'OMS dans un nouveau rapport disant que 7 millions de personnes sont mortes en 2012 de l'exposition à l'air contaminé, un chiffre qui a plus que doublé en l'espace de 4 ans seulement. Michel Joseph.
La pollution atmosphérique est un problème mondial. L'OMS estime qu'une personne sur 8 dans le monde meurt de la pollution de l'air. Des données récentes montrent que les personnes exposées à la pollution de l'air, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, meurent prématurément de maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et les attaques cardiaques ischémiques ainsi que les maladies pulmonaires chroniques et le cancer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des décès dus à la pollution de l'air surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, où environ la moitié de la population mondiale chauffe leur maison et prépare à manger en utilisant les feux ouverts et poêles simples. Les responsables sanitaires estiment que l'utilisation de charbon et de biomasse combustible, tels que le bois, les déjections animales et les déchets agricoles, est responsable de la mort prématurée de 4,2 millions de personnes en 2012. Ils ont aussi relevé un lien entre 3,7 millions d'autres décès dans les zones urbaines et rurales et la pollution de l'air extérieur. Carlos Dora, coordinateur de programme de santé publique à l'OMS, dit que l'air ne peut pas être acheté en bouteille.
To resolve this issue, it's quite important that countries, nations take action, which is more or less coordinated.
Pour résoudre ce problème, il est très important que les pays, les nations, prennent des mesures plus ou moins coordonnées. Et la raison en est que ces minuscules particules d'air que l'on partage parcourent des milliers de kilomètres normalement autour de l'hémisphère vers l'Est. Alors, la pollution dans un pays aura une incidence sur un certain nombre d'autres pays sous le vent. La pollution de l'air était autrefois pire dans les pays développés que dans les pays en développement, fait remarquer Dr Dora, mais il affirme que les pays développés, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis, ont pris des mesures qui ont considérablement réduit la pollution de l'air au cours des 10 dernières années.
Alors, on accueille en studio maintenant Timothée Dounangmaï pour la page sport. Bonsoir Timothée.
Bonsoir chérie.
On commence par quoi ce soir?
Par le tennis.
Ah bon, alors allons en Floride, l'Open de tennis Sony.
Et oui, le triple champion du tournoi, Novak Djokovic, s'est qualifié aujourd'hui pour les quarts de finale. Il a défait Tommy Robledo en 2-7, 6-3 et 7-5.
Et le football?
Et le football, les architectes de David Beckham lui ont recommandé le port de Miami comme le site du stade du club de football que l'ancien capitaine anglais envisage de lancer. Ce club évoluera au sein de la Major League Soccer, la ligue professionnelle de foot des États-Unis. Et le plan du stade présenté hier prévoit un stade ouvert sur la baie de Miami avec entre 21 000 et 35 000 places. D'autres sites sont aussi en considération, notamment l'Université internationale de Miami. Pour l'heure, Beckham n'a pas fixé la date d'entrée en compétition de son club, sa priorité étant de convaincre l'Assemblée de l'État de Floride d'apporter sa contribution à l'entreprise.
Quelques secondes pour des résultats dans la NBA.
Voilà, il y a eu San Antonio qui a enregistré sa 14e victoire d'affilée hier soir en battant Philadelphie 113 à 91. Philadelphie qui a ainsi encaissé sa 25e défaite consécutive. Et hier soir, LeBron James a marqué 32 points pour aider Miami à battre Portland 93 à 91 et offrir ainsi à son coéquipier Chris Bosh un beau cadeau d'anniversaire. C'était pour son 30e anniversaire. Houston a défait Charlotte 100 à 89, victoire de Chicago contre Indiana 99 à 77 et la victoire de Brooklyn après prolongation contre la Nouvelle-Orléans 109 à 104.
Merci Timothée.
Allez, une petite page musicale avec Roger Muntou.
Exactement, Nathalie. Bonjour Nathalie, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien, ça va très bien Roger.
T'as vu la neige là dehors?
Oui, oui, la petite neige du mois de mars.
Mais écoute Nathalie, l'artiste Céleos Cram a intervenu dans l'album Get Loud, un album qui dénonce la discrimination contre les femmes. On écoute ici en featuring avec Fally Ipupa dans Orthothanasie.
Je vais manœuvrer de ton amour jusqu'à perdre conscience. Je n'ai surtout pas besoin de secours, tu dis. Son Excellence José Ndundu Koyaku Kiakumbi Bokulaka Yukamwana Siyuska.
Tu diras arrête à sourire sur mon visage, ma cachoire. Abonaza chacun à mon démarche.
Alors Roger, ce projet musical est une initiative de l'association congolaise Mental Engagé et Exprime-toi.
Exactement, cette association convie les femmes à oser parler, oser chanter, oser crier la discrimination dont elles sont victimes dans la société congolaise. L'album Get Loud a été créé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Les artistes proviennent des cinq différentes villes de la RDC, Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani, Goma et Bukavu.
Est-ce que ça va prendre que ça va indice?
Oui, ça je suis la triple S.
C'est la ndengo tamise, Didi pas bien fait nanga.
Voilà, c'est l'Oscram en featuring avec Fally Ipupa dans Orthothanasie. Merci beaucoup, Roger.
De rien, Nathalie.
Voilà, Roger Muntou que vous retrouvez chaque jour à 20h, temps universel.
Pourquoi la décision est imperméable? C'est
na demo balar menanga ya mawa ekonoka papa na Gladys.
Kikisel sasungeso balikaze cosmétique.
Et ici s'achève Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde. Joe Gill était à la console technique. Laissez-nous vos messages sur fr@voanews.com. Ici Chérubin Gabi Dorsil
et Nathalie Barge.
On se retrouve dans une demi-heure.
Christelle Pires, Joyce Moore.